Europe 1 Culture Média. 9h, 11h.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ravi de finir cette deuxième semaine saison 2 avec vous et Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. Tiens, aujourd'hui, les sorties d'albums rock et la figue. C'est pas un groupe, c'est de la gastronomie. On sera avec Laurent Mariotte. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu. Ce sera aux alentours de 10h22. Eva Rock pour son zapping du lendemain et Bertrand Chameroy pour l'écran de veille. Hier, Chameroy a fait très fort avec les embrouilles sur le Tour de France. Et vous pensez qu'il est content de lui?
Ah, ça, c'est une question con, hein.
Et si ce que je vous dis vous paraît obscur, je vous invite à podcaster l'émission d'hier et toutes les autres sur europe1.fr. Notre infomédia sera consacrée aux lanceurs d'alerte. Comment ils travaillent, mais combien ils sont menacés et surtout comment ils se protègent quand ils y arrivent. Puis nos invités, Harry Roselmack pour 7 à 8, le mythique magazine d'info de TF1 qui repart ce dimanche pour une 15e saison avec des nouveautés. Et puis le compositeur de musique de film connu sur toute la planète, Alexandre Desplat, mondialement récompensé, 2 Oscars et 3 Césars. Il vient pour un album hors norme. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias. Charles, qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Un rêve devenu réalité pour Julien Courbet, rien que ça. L'explosion du streaming va faire des victimes. Facebook et Twitter s'en prennent à Trump. Et une première sur la piste de Danse avec les Stars.
Mais évidemment, on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
En tête, on retrouve TF1. La chaîne a lancé hier sa nouvelle série française, Grand Hôtel, avec Carole Bouquet. En moyenne, les deux épisodes ont réuni 4,3 millions de téléspectateurs, 4,35 précisément, il faut voir comment on arrondit, pour 21,8% de part d'audience. Sur les femmes de moins de 50 ans, la série signe un score relativement timide à également 21,8% de part d'audience.
Et je précise que si Charles donne souvent les scores des femmes, en fait c'est la FRDA, femme responsable des achats,
tout le monde 50
et
ans.
C'est la cible privilégiée des annonceurs et c'est le nerf de la guerre pour TF1, M6 et les chaînes privées.
Absolument.
En deuxième,
France 3, donc deuxième avec la comédie française inédite Largué. Le film a été suivi par 2,6 millions de personnes, soit 12,5% du public. Sur les ménagères, justement, sur les femmes, pardon, de moins de 50 ans, puisqu'on en parlait, ouais. 9%, ça peut sembler faible, mais pour France 3, c'est un bon score en prime. C'est M6 qui est troisième avec la suite de la série américaine 911. Les deux épisodes inédits pointent à 2,2 millions de téléspectateurs, soit 10,6% du public. C'est en baisse sur une semaine.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec la mort de certains services de streaming en 2024.
Oui, le cabinet PricewaterhouseCoopers a publié cette semaine une étude sur le marché du streaming vidéo et les prédictions sont à la fois extrêmement favorables et terriblement pessimistes. Le marché du streaming va exploser, mais certaines plateformes majeures ne passeront pas l'année 2024.
Avant de savoir lesquelles, comment ça se fait d'abord?
Alors côté pile, l'explosion annoncée du streaming est d'ores et déjà enclenchée, pas de surprise à ce niveau-là. En chiffres, le marché devrait doubler de valeur d'ici 2024 pour atteindre 86 milliards de dollars. Il passera donc devant le marché de la télévision traditionnelle. Mais côté face, deux phénomènes devraient se conjuguer dans les années à venir. Les analystes leur ont trouvé deux jolis petits noms. La fatigue de l'abonnement et l'apogée du portefeuille. Je vous ai traduit ça comme j'ai pu. En clair, les gens seront lassés de devoir s'abonner à un autre service de VOD et leurs finances personnelles les en empêcheront parfois.
Je comprends très très bien ça. Alors qu'est-ce qui va se passer?
Le cabinet part du principe que les téléspectateurs ne sont prêts à s'abonner qu'à 3 ou 4 services simultanément, pas plus. Ils devront donc choisir parmi une offre qui ne cesse de se diversifier. Par conséquent, PricewaterhouseCoopers prévoit des victimes, même parmi les mastodontes du secteur. Selon le rapport, l'époque du monopole de Netflix ne sera bientôt plus que de l'histoire ancienne et ceux qui s'en sortiront le mieux seront ceux qui proposent des packs. C'est une bonne nouvelle côté français pour Canal+, qui a d'ores et déjà lancé cette stratégie d'agrégateur de services en s'alliant avec OCS, Netflix et plus récemment Disney+.
Et une bonne nouvelle aussi pour Julien Courbet.
L'animateur de Capital sur M6 s'apprête à débarquer en quotidienne sur la chaîne. Il en rêve depuis des années, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, un rêve qui devient réalité. Il proposera une version télé de son émission de radio « Ça peut vous arriver », qui est diffusée sur RTL depuis 20 ans. Et M6 a précisé auprès du Parisien qu'il ne s'agirait pas d'une captation de l'émission de radio. Avant la fin de l'année, Julien Courbet résoudra donc chaque jour à la radio, puis à la télé, les problèmes du quotidien des Français, avec leur assurance, leur vendeur de voitures ou leur cuisiniste par exemple. Cette mise en avant de l'animateur s'inscrit dans la stratégie de synergie du groupe M6 qui a racheté la radio en 2016. Les animateurs de la station sont de plus en plus nombreux sur la chaîne et inversement. Flavie Flamand est ainsi passée de la radio à la télé par exemple, tandis qu'Ophélie Meunier et Karine Lemarchand sont passées de la télé à la radio.
Et dans le même groupe, et nous, on passe de la radio à la piste de danse.
Oh, On passe au parquet de Danse avec les Stars Outre-Manche plus précisément. L'émission britannique Strictly Come Dancing s'apprête à accueillir son premier binôme de même sexe, puisque deux femmes, une célébrité et une danseuse professionnelle, danseront ensemble cette saison. La championne de boxe Nicola Adams, médaillée d'or aux JO de 2012 et 2016, va fouler le parquet avec une danseuse professionnelle dont on ne connaît pas encore l'identité. Elle a déclaré qu'elle avait conditionné sa participation à l'émission à l'accord de la BBC sur ce point.
Et alors pourquoi vous nous en parlez ce matin ? Pourquoi ça fait parler ?
Parce que c'est une première, mais aussi parce que ça fait longtemps que l'émission est pointée du doigt pour son conservatisme. Strictly Come Dancing, c'est le format original qui a donné naissance à toutes les déclinaisons de Danse avec les Stars dans le monde. Et il y a déjà eu des binômes de même sexe dans certaines versions internationales. Le fait que Strictly, comme l'appellent les Anglais, leur emboîte le pas est d'autant plus important que l'émission est extrêmement populaire outre-Manche. La saison dernière, elle a ainsi été suivie par plus de 10 millions de téléspectateurs.
Et puis, nouvel épisode dans la guerre entre les réseaux sociaux et Donald Trump.
Hier, Facebook et Twitter ont publié des avertissements au sujet d'un message publié par le président américain. Ce n'est pas la première fois, vous me direz, mais si Twitter s'est montré très proactif, dès le mois de mai, Facebook a mis beaucoup, beaucoup plus longtemps à agir.
Et là, en l'occurrence, il disait quoi ces messages de Trump ?
Alors, une fois de plus, il concernait le vote par correspondance que le président attaque avec virulence depuis des mois. Cette fois, le président a décidé d'encourager ses partisans à voter en personne pour la présidentielle et aussi à voter par correspondance. Avec beaucoup de majuscules dans son message, vous vous en doutez, il les a enjoints à renvoyer dès que possible leur bulletin de vote par courrier et à se diriger vers leur bureau de vote le jour du scrutin pour voir si leur vote avait été comptabilisé. Si ce n'est pas le cas, votez, et si votre vote par correspondance arrive après le scrutin, il ne sera pas pris en compte puisque vous aurez voté en personne, a dit Donald Trump. Or, voter deux fois, bah assez logiquement, c'est illégal.
Ouais.
Twitter a donc sévi, les tweets restent accessibles, mais ils sont accompagnés d'un avertissement. De son côté, Facebook a publié un correctif, je cite « La fiabilité du vote par correspondance est historiquement établie et il devrait en être de même cette année. »
Et puis Charles, vous terminez ce journal par une petite mise à jour.
Mon père ne peut pas combattre. Je prendrai sa place.
La semaine dernière, je vous parlais de Mulan, l'adaptation en prise de vue réelle du dessin animé de Disney. Le film était attendu dans les salles en mars, mais le Covid-19 a poussé le studio à décaler cette date à plusieurs reprises pour finalement décider de le sortir directement sur son service de streaming Disney+, ce 4 septembre. Mulan est donc disponible depuis aujourd'hui un peu partout dans le monde, sauf chez nous. Car à l'étranger, en plus, je vois que vous êtes déçus.
Mais oui.
Car à l'étranger, en plus de leur abonnement à Disney+, les fans de Mulan doivent débourser entre 20 et 30 euros environ pour accéder au long métrage. Mais en France, Disney a vite compris que ce type de stratégie ne fonctionnerait pas.
Alors ici en France, est-ce qu'on sait finalement quand on pourra voir Mulan ?
Après avoir laissé planer le doute sur la date de sortie de Mulan dans l'Hexagone, Disney a finalement communiqué. Il faudra attendre le mois de décembre, juste avant Noël. Les pays où Mulan est actuellement payant pourront également le découvrir gratuitement. Dans les faits, les Français sont donc tout simplement privés de 3 mois d'une avant-première payante.
Merci beaucoup Charles Decan, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Notre info média du jour, c'est l'ouverture du procès de la plus grande fuite de données de l'histoire du journalisme, les Football Leaks. Et pour parler des lanceurs d'alerte, on va en recevoir deux, ainsi que le coordinateur de la maison des lanceurs d'alerte. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Ce vendredi 4 septembre s'ouvre à Lisbonne le procès de Rui Pinto, l'homme à l'origine des Football Leaks. C'est la plus grande fuite de données de l'histoire du journalisme. Il a 31 ans et il fait face à pas moins de 90 chefs d'inculpation qui vont de la tentative d'extorsion au piratage informatique. Au-delà de son cas, qu'en est-il du statut de lanceur d'alerte ? Comment sont-ils protégés quand ils le sont une fois qu'ils ont parlé ? Et comment font-ils face à la justice ? Pour en parler, nous sommes avec Jean-Philippe Fogel dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous en direct. Vous êtes le coordinateur de la maison des lanceurs d'alerte, Stéphanie Gibaud, pardon, bonjour.
Bonjour Monsieur Vondel.
Merci d'être avec nous, vous êtes lanceuse d'alerte dans l'affaire UBS. Et Antoine Deltour, pour compléter ce plateau, bonjour.
Bonjour.
Vous-même êtes et avez été lanceur d'alerte dans le cadre des Luxembourg Leaks. Tout d'abord, je me tourne vers vous Jean-Philippe Fogel. Qu'appelle-t-on en lanceur d'alerte ?
Alors, il n'y a pas de définition communément admise du lanceur d'alerte. Globalement, on peut dire qu'un lanceur d'alerte, c'est tout citoyen qui révèle ou qui signale des informations qu'il perçoit comme étant une violation de l'intérêt général.
Dans l'idée qu'il soit citoyen, il y a celle-ci, mais il y a l'autre, c'est qu'il est de l'intérieur généralement.
Absolument.
Ou pas forcément.
Alors, absolument. Enfin, je dirais oui et non. C'est-à-dire que dans l'absolu, la plupart des personnes qu'on reçoit, ce sont des personnes qui ont une information particulière parce qu'elles ont, elles y ont accès, parce qu'elles sont salariées. Mais on a aussi des citoyens qui sont des riverains, sont des personnes qui témoignent de choses qu'elles perçoivent comme étant une violation d'intérêt général, de la pollution, comme typiquement... Comme un certain nombre de lanceurs d'alerte et qui lancent l'alerte sans forcément être des salariés d'associations.
Compris. Alors, c'est quoi la maison des lanceurs d'alerte ? À quoi sert-elle ? Depuis quand existe-t-elle ? Quel est son but ?
Alors, la maison des lanceurs d'alerte, c'est un.
Ne touchez pas le micro, ça s'entend.
La maison des lanceurs d'alerte, c'est une association qui est relativement récente, puisqu'on s'est créée en 2018. Le constat avant 2018, c'était qu'il n'y avait pas d'association dédiée à la protection des lanceurs d'alerte. Évidemment, beaucoup d'associations membres de la Maison des lanceurs d'alerte aujourd'hui étaient confrontées à des problématiques de lancement d'alerte. Simplement, on a décidé de mettre en commun les compétences et de créer une seule association, un seul centre de ressources pour les lanceurs d'alerte.
Parce qu'il faut dire, ils ont besoin d'être soutenus. Par exemple, dans le cas d'une salariée qui dénonce ce qui se passe dans sa banque ou dans son entreprise, la banque, l'entreprise a des moyens légaux énormes, par exemple pour payer des avocats, et ce qui n'est absolument pas à la portée d'un petit citoyen lambda.
Absolument, d'où la nécessité de réunir les forces, notamment associatives et syndicales, pour protéger les lanceurs d'alerte.
Alors, je l'ai dit, nous avons deux lanceurs d'alerte en ligne ce matin, Stéphanie Gibaud, Antoine Deltour. Est-ce que vous pouvez nous raconter chacun dans quelles affaires vous avez été lanceur d'alerte ? Je vais commencer par vous, Stéphanie Gibaud. C'était dans l'affaire UBS en 2007. Vous écrivez sur votre site « Mon éthique a fait trébucher un géant ». Racontez, Stéphanie Gibaud.
En juin 2008, donc il y a 12 ans maintenant, effectivement, ma supérieure hiérarchique, est rentrée comme une furie dans mon bureau pour m'expliquer qu'une perquisition venait d'avoir lieu dans le bureau du directeur général et que, étant donné les circonstances, je vous la cite, il fallait que je détruise de mon disque dur tous les documents que j'avais depuis que j'étais rentrée dans la banque. J'étais responsable marketing et communication. Et donc, je détruise de mon disque dur tous les documents qui comportaient le nom des clients que nous invitions sur des plateformes événementielles. Mmh. Et les noms de ces clients étaient reliés à des noms de banquiers, soit en France, soit essentiellement en Suisse.
Et que s'est-il passé ensuite ?
Une véritable descente aux enfers.
D'abord, avez-vous obéi ? Avez-vous exécuté l'ordre ?
Non, justement, je n'ai pas détruit ces données. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai posé des questions sur cette perquisition. Non, mais c'est tellement grave que c'est quand même important qu'on m'en parle. Et on m'a dit, en gros, c'est pas votre problème, obéissez. Et comme j'étais occupée à organiser à l'époque un tournoi de golf, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai pas vraiment porter intérêt à ce qu'elle me demandait, c'est-à-dire à détruire ces données. Mais c'est dans les semaines qui ont suivi où on m'a demandé si j'avais exécuté l'ordre et si, et on m'a demandé aussi de détruire toutes les archives papier, c'est-à-dire tous les documents que j'avais dans mes armoires, dans mon bureau, que là, je me suis dit, mais en fait, moi, à l'époque, le mot lanceur d'alerte en France n'existait pas. Je me suis dit, mais on m'en veut. On veut se débarrasser de moi. J'ai fait quelque chose qui ne va pas, je ne dois plus être à la hauteur de mon poste. Je ne comprenais pas, donc je n'ai pas du tout détruit ces données. Et comme j'étais une élue du personnel, j'étais à l'époque secrétaire du CHSCT, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait deux types d'alertes en interne, en posant des questions lors de ces réunions trimestrielles face à la direction. Et j'ai été voir les dirigeants de la banque, les uns après les autres, le directeur général, le président, la DRH, etc., qui m'ont tous donné la même réponse, que j'étais fatiguée, que je devais prendre des vacances, que j'étais banquier, que je ne comprenais pas très bien de quoi il s'agissait, parce qu'en fait, on est sur un sujet qui a été jugé maintenant. Hein. La ouais. banque UBS a été condamnée en début 2019, à l'amende la plus importante qui ait jamais été donnée à une banque en France, c'est-à-dire 4,5 milliards d'euros.
Mais avant...
Le sujet, c'est le démarchage illicite des banquiers suisses sur le territoire français et l'évasion fiscale en bande organisée, ce qui rejoint quelque part les Football Leaks, puisqu'on avait une cellule chez UBS dédiée aux sportifs de haut niveau.
Mais avant qu'on arrive à ce procès, tout d'abord, c'est, si j'ose dire, l'arroseur arrosé, c'est que vous avez UBS, France, a porté plainte contre vous en 2010 pour diffamation.
Oui, et puis à nouveau en 2017 pour mon premier livre qui s'appelait « La femme qui en savait vraiment trop » et qui raconte en détail tout ce que je viens de vous dire.
Vous avez été licencié en février 2012, vous avez gagné tous vos procès.
Tous mes procès contre UBS et mon procès contre l'État français. Parce que moi, j'ai une particularité par rapport à tous les lanceurs d'alerte, c'est qu'après avoir porté plainte en 2009 contre UBS pour tous ces motifs, hein, d'évasion fiscale et de blanchiment de capitaux, l'État français, via des fonctionnaires assermentés du service des douanes qui travaillent pour le ministère des Finances, donc pour Bercy, m'ont demandé de leur remettre sur ordre des informations confidentielles appartenant à UBS, appartenant au serveur d'UBS, c'est-à-dire qu'ils savaient que j'étais harcelée par mon employeur. Et moi, je pensais bien évidemment que l'État français allait me protéger. Donc pendant plus d'un an, j'ai donné des informations sur des processus, sur des clients, sur des banquiers, qui ont amené d'ailleurs à cette amende record de 4,5 milliards d'euros. Et le ministère des Finances, via M. Sapin, entre autres, via M. Macron, qui était ministre du Budget aussi, et les successeurs, c'était M. Darmanin jusque récemment, ont refusé de m'appliquer la loi, de m'appliquer le droit.
Ici,
d'un côté, on contraint les citoyens par le droit et de l'autre côté, on refuse de leur appliquer la loi.
Ici, nous sommes dans une émission média. À quel moment vous médiatisez ces informations ? Parce que ça aurait pu rester qu'une affaire interne. Où arrive le mot alerte et
moi,
comment nous, citoyens, avons-nous été avertis de ce qui se passait à UBS France ?
Moi, je ne suis jamais allée vers les médias. Toutes les alertes que j'ai faites, je les ai faites selon la loi Sapin, c'est-à-dire une alerte graduée en entreprise, auprès des dirigeants. Et comme tout s'est retourné contre moi, je suis allée voir l'inspectrice du travail qui m'a conseillé, au bout de quelques mois, de porter plainte contre mon employeur. Puis après, j'ai eu les services des douanes sur le dos, excusez-moi de l'expression, pendant plus d'une année.
Et à quel
moment... je ne suis jamais allée voir le canard enchaîné ou je ne sais qui.
Et alors, à quel moment l'affaire devient médiatisée ? Les plaintes qui, de fait, médiatisent l'affaire.
Non, à partir du moment où moi j'ai été licenciée, est sorti le livre d'Antoine Payon. Et c'est le livre d'Antoine Payon qui a médiatisé l'affaire.
Vous en êtes où maintenant ? C'est encore douloureux ? Vous êtes tiré d'affaire ? Ou est-ce que vous devez batailler jour après jour ? C'est pour annoncer la suite avec nos invités, et notamment avec Jean-Philippe Fogel.
Ah mais c'est une juste blague, c'est juste une plaisanterie, mais une mauvaise plaisanterie. C'est-à-dire ce que j'ai vécu chez UBS a été un enfer pendant 3 ans et demi. Licenciement, vous en avez parlé, mais avant ça, isolement, placardisation, harcèlement, etc., etc. Mais le pire, c'est ce que je vis depuis, puisque j'ai encore 4 procès en cours. On a parlé du procès en diffamation sur mon premier livre, mais j'ai le procès au pénal sur le harcèlement que j'ai subi. Il y a un procès qui doit concerner aussi les agents des douanes et leur hiérarchie qui m'ont utilisé alors qu'ils savaient pertinemment que j'étais en état de faiblesse, et le fait que l'État ne veuille pas reconnaître mon travail alors que des lois existent.
Stéphanie Gibault,
si vous voulez, Stéphanie la protection Gibault, des lanceurs d'alerte, c'est juste une blague en France. Hein.
Stéphanie Gibault, cette protection, on va en parler, on est avec Jean-Philippe Fogel et avec vous, on marque une courte pause dans Culture Média, on se retrouve juste après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
On parle des lanceurs d'alerte, de leur utilité, de leurs problèmes, de leur désarroi parfois. Nous sommes avec Jean-Philippe Fogel dans Culture Média, coordinateur de la maison des lanceurs d'alerte. Stéphanie Gibault, lanceuse d'alerte dans l'affaire UBS. Et puis Antoine Deltour, lanceur d'alerte dans le cadre des Luxembourg Leaks. Rappelez-nous, Antoine Deltour, ce qu'étaient les Luxembourg Leaks ou LuxLeaks, ça remonte à 2014.
Oui, tout à fait. Alors en fait, je travaillais dans un grand cabinet d'audit au Luxembourg, donc un cabinet que vous avez cité dans votre journal média, la PricewaterhouseCoopers, et qui produisait des accords fiscaux en fait entre les multinationales clientes et l'administration fiscale luxembourgeoise, et qui permettait à ces multinationales de contourner les règles fiscales ou en tout cas de bénéficier de traitements fiscaux extrêmement favorables avec des taux effectifs d'imposition très proches de zéro. Et donc moi j'ai copié des milliers de pages de ces accords fiscaux extrêmement confidentiels que j'ai transmis à un journaliste du consortium international de journalisme d'investigation, et donc ça a déclenché des révélations assez retentissantes dans la presse mondiale sous le nom de Luxembourg Leaks. Et par la suite, donc mon ex-employeur évidemment n'est pas resté passif et a porté plainte.
Je précise que
fuite de données provenant de son cabinet.
Pardonnez-moi, je précise que contrairement à Stéphanie Gibault qui n'avait jamais contacté les journalistes, nous disait-elle, vous-même vous aviez confié ces documents à un journaliste de Cache Investigation, et c'est une émission qui a été diffusée sur France 2 qui a fait beaucoup de bruit. C'était en mai 2012. Que s'est-il passé ensuite pour vous ?
Eh ben, suite à la plainte du cabinet d'audit, en fait, j'ai fait l'objet d'une inculpation au Luxembourg pour 5 chefs d'inculpation qui me faisaient risquer un total de 10 ans de prison et 1 300 000 euros d'amende. Mmh. Et donc, il y a eu plusieurs procès au Luxembourg. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que la médiatisation de l'affaire a permis de mobiliser de très larges soutiens qui sont très, très actifs et qui ont permis notamment de collecter de l'argent pour financer ma défense qui était supérieure à l'ensemble de mes revenus sur la période des poursuites judiciaire. Et à l'issue de ces 4 procès, j'ai été acquitté. La justice luxembourgeoise a décidé d'appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et notamment a évalué si j'aurais dû en premier lieu m'adresser à mon supérieur hiérarchique hein, en étant témoin de pratiques fiscales que je les approuvais. Est-ce que j'aurais dû d'abord en parler en interne? Est-ce que j'aurais dû d'abord me tourner vers les autorités luxembourgeoises ou est-ce que j'ai bien fait de m'adresser à un journaliste? Et là, la justice luxembourgeoise a tranché, a dit que j'avais bien fait de me tourner vers un journaliste puisque mon ancien employeur ainsi que les autorités luxembourgeoises étaient partie prenante des accords fiscaux décriés.
Alors le 11 janvier 2018, vous êtes relaxé par la Cour de cassation du Luxembourg qui vous décerne le statut de lanceur d'alerte. C'est pas seulement une appellation journalistique, ça existe réellement. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous ?
Eh ben concrètement en fait c'est défini par 5 critères dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors je vais peut-être pas les citer, ça endormirait.
Non mais la conséquence
qui vient de se lever. Mais la conséquence c'est que tout simplement en fait c'est un droit supranational qui est supérieur au droit pénal national. Et donc là les lois luxembourgeoises, notamment la protection du secret des affaires, le droit concernant le vol, concernant la fraude informatique, auraient conduit à ma condamnation en lisant strictement les faits. Mais seulement, cette jurisprudence affirme que mes motivations, qui étaient celles de la liberté d'expression pour informer le public de pratiques hautement contraires à l'intérêt général, étaient supérieures et justifiaient que je commette ces délits en droit national.
Juste un mot maintenant, ce qu'il faut parler de vous, vous n'êtes pas journaliste, votre métier de base c'est lequel ?
Alors au départ, j'étais auditeur, je travaillais c'était un métier vraiment comptable, de certification.
Mais là maintenant, des entreprises. Si vous cherchez du travail et que vous avez cette étiquette de lanceur d'alerte, est-ce que il n'y a pas une sorte de double peine ? Est-ce que les entreprises ne vont pas rechigner à vous engager ?
Alors effectivement, la situation des lanceurs d'alerte, en plus de s'exposer à des poursuites judiciaires, c'est aussi de souffrir d'une dégringolade de son employabilité sur le marché du travail. Effectivement, si aujourd'hui je recherchais du travail auprès d'un cabinet d'audit ou au Luxembourg, ce serait probablement très difficile. Après, moi j'avais la volonté, j'ai démissionné du cabinet d'audit en ayant fait le choix de me reconvertir professionnellement. Donc j'ai retrouvé un travail dans un secteur qui n'a rien à voir. Mais c'est clairement plutôt une chance par rapport aux lanceurs d'alerte. Après, l'expérience que je tire de cette alerte dans l'affaire LuxLeaks, c'est que lancer l'alerte, ça peut effectivement mettre dans des situations très difficiles. On vient d'entendre le récit de Stéphanie Gibault. Ouais. On connaît la situation de Rui Pinto dont le procès s'ouvre et qui a déjà fait 1 an de détention provisoire avant d'avoir le moindre avis de la justice sur ce qu'il a fait. Donc ça peut être effectivement assez dramatique, mais c'est pas systématique.
D'accord. Je vous interromps parce qu'il y a beaucoup d'intervenants ce matin et j'en suis ravi. Jean-Philippe Fogel, vous êtes coordinateur de la Maison des lanceurs d'alerte. Une de vos missions, c'est justement l'aide à la médiatisation. Et comment faites-vous pour gérer cette contradiction, médiatiser des affaires qui elles-mêmes peuvent mettre en danger ceux qui les concernent si ces affaires sont médiatisées ?
Pour être parfaitement honnête, en général, on ne conseille pas aux personnes d'être médiatisées. On le voit dans beaucoup de cas, la médiatisation, ça peut aussi nuire aux personnes. En tout cas, les personnes qui ont retrouvé un emploi, c'est des personnes qui ont révélé des choses à des journalistes de manière anonyme et qui en fait ne sont pas traçables. Donc la plupart des personnes qui ont retrouvé un emploi sont des personnes qui ne sont pas connues du grand public.
D'accord.
Après, dans certains cas, la médiatisation, ça peut aussi aider. Quand ça concerne des grandes entreprises, quand l'alerte concerne des grandes entreprises dont les personnes peuvent être mises en danger si elles lancent l'alerte en interne, dans ce cas-là, la médiatisation, ça peut aussi aider les personnes.
Stéphanie Gibault, est-ce que vous avez la sensation que la loi protège suffisamment les lanceurs d'alerte ? Et vous l'avez dit, vous n'avez pas contacté la presse, mais malgré vous, vous êtes devenue une figure publique.
Mais c'est ça qui est complètement dingue, justement. C'est que la médiatisation en aide certains et finalement, elle en assassine d'autres. Moi, je suis toujours à me dire, mais qui a donné mon nom aux médias ? Et pourquoi ? Et pourquoi les médias se sont tous refilé mon nom, finalement, pour me mettre en danger ? Parce que de quoi est-ce que j'ai été protégée ? Est-ce que j'ai été capable de retrouver du travail ? Bien sûr que non.
Vous n'avez pas de travail. À l'heure actuelle, au moment où on se parle, vous n'avez pas de travail.
Ah mais moi j'ai été licenciée, vous l'avez dit tout à l'heure, le 10 février 2012. Donc oui. Je vis sans revenu depuis 8 ans. Est-ce qu'il y a des comités de soutien ? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui se mobilisent ? Non. Est-ce que le procès UBS qui a eu lieu en fin 2018, début 2009 a mobilisé les foules ? Non. Alors que ça concerne les millions de contribuables français. C'est justement très intéressant de voir que certains dossiers mobilisent et pas d'autres. Alors que le dossier UBS, justement, il est convergent vers les multinationales dont parlait Antoine Deltour tout à l'heure, puisque j'en connais un certain nombre qui étaient clientes d'UBS. Mmh. Et de l'autre côté, les Football Leagues, avec ce que je vous disais au début de cet entretien, les joueurs de foot qui étaient, et les sportifs de haut niveau, qui étaient gérés par une cellule UBS. Ouais. Donc en fait, il y a des dossiers sur lesquels on s'intéresse, et notamment à l'étranger, parce que là, vous parlez du Portugal et vous parlez du Luxembourg. Moi, je vous parle d'un délit qui a lieu en France, où moi, je travaillais, où vous, vous vivez, où vous, vous payez vos impôts, qui est le pays des droits de l'homme, pour le rappeler, qui a refusé l'asile d'Edward Snowden et de Julian Assange. Je vous parle de ces deux-là, puisque j'ai vu que Edward Snowden était témoin au procès de Rui Pinto et que Assange est enfermé et emprisonné depuis plus d'un an en Grande-Bretagne. Donc, quelle image est-ce qu'on a de nos démocraties occidentales avec des dossiers aussi importants ?
On va rester sur cette question. Évidemment, le temps passe très vite et le sujet est tellement riche. Je parlais de Rui Pinto. On va refaire une émission spéciale Football Leagues, car on n'a même pas eu le temps d'évoquer le sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphanie Gibaud, lanceuse d'alerte dans l'affaire UBS. Merci Antoine Deltour, lanceur d'alerte dans le cadre des LuxLeaks. Et merci à Jean-Philippe Fogel, coordinateur de la maison des lanceurs d'alerte. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Dans quelques instants, c'est Harry Roselma qui sera dans ce studio. On va parler avec lui des 20 ans de l'émission mythique 7 à 8 sur TF1. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Harry Roselmack.
Bonjour Philippe.
Faut-il vous présenter ? Vous êtes le présentateur de 7 à 8, magazine d'info du dimanche de TF1. Depuis 2006, vous aviez pris la succession de Thomas Hugues et Laurence Ferrari. Votre rentrée, c'est après-demain dimanche. 7 à 8, comme son nom ne l'indique pas, c'est à 17h jusqu'à 19h. Vous présentez l'émission depuis 15 ans. Cette saison, le magazine fête ses 20 ans. Quoi de neuf pour ce 20e anniversaire ?
Alors, il y a des âges de la vie auxquels on se dit qu'il faut rajeunir un petit peu, qu'il faut mettre un petit coup de frais. Et donc, cette année, nouvel habillage. Alors, nouveau générique que vous reconnaîtrez, évidemment, la base reste là. Mais on ripolline tout ça sur la forme.
On entend l'ancien.
Exactement. Donc, ce sera une déclinaison de ce que vous entendez là. Et puis, sur le fond, parce que c'est quand même le plus important, on fait de l'information, l'arrivée d'Audrey Crespo-Mara dans le portrait de la semaine, qui est l'un de nos rendez-vous très installés, très iconiques de l'émission.
Alors, j'ai eu la chance de voir cette interview. C'est avec Jean-Marie Bigard. L'émission de dimanche, voilà pourquoi je ne l'ai pas vue, encore en montage. Il y aura quoi au sommaire ?
Alors, comme d'habitude, au sommaire, on va avoir des sujets très proches des gens. On va parler dans 7 à 8 live, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on commence à 17h parce qu'on a une déclinaison de 7 à 8 depuis quelques années qui s'appelle 7 à 8 Life. Et dans Life, on a la success story de deux Français qui ont lancé une chaîne de restaurants italiens qui cartonne partout en Europe. Et puis dans 7 à 8, on a, alors comme d'habitude, nos sujets faits divers très impactants avec ce mystère des chevaux mutilés depuis l'été, avec des chevaux partout en France qu'on retrouve éborgnés, mutilés, avec beaucoup de rumeurs sur Internet, mais assez peu de faits concrets, donc nous on va essayer d'éclairer tout ça. Et puis un grand sujet, comme on sait les faire, grand reportage sur la Biélorussie, dernière dictature d'Europe dont le peuple se soulève depuis quelques semaines, depuis la mi-août, et on est allé sur place comprendre ce que c'est que de vivre sous une dictature en Europe à 3 heures d'avion de Paris.
Alors vous l'avez dit, Harry Roselmack, l'interview portrait est désormais assurée par Audrey Crespo-Mara. C'est très attendu dans 7 à 8. Elle respecte le code, je l'ai vu, mis en place par Thierry Demézière. On se posait des questions. Elle n'est pas présente à l'image.
Non.
On l'entend, mais on ne la voit pas. Le premier invité, c'est Jean-Marie Bigard. Pourquoi lui ?
Parce que Jean-Marie Bigard est en ce moment dans l'ADN du portrait. C'est une personnalité connu des Français, c'est le seul humoriste à avoir rempli le Stade de France, et c'est quelqu'un qui connaît actuellement un virage dans sa vie, puisque Jean-Marie Bigard, apparemment, de façon sérieuse, va faire de la politique. Il sera en tête de la manifestation des Gilets jaunes le samedi suivant la diffusion du portrait, et il a des ambitions au plus haut niveau.
Voilà, double actualité. Il annonce sa candidature à la présidentielle. Il sera en tête du cortège de la manifestation des Gilets jaunes. Ça revient samedi, pas demain, mais samedi dans 8 jours. Extrait à deux voix.
Qui méprise qui aujourd'hui en France ?
Ben, nos gouvernants. Nos gouvernants, c'est une équipe de remplaçants. Et c'est normal parce que Emmanuel Macron, il a réussi un coup fantastique. Il a brisé tout le monde, la gauche, la droite. Et d'ailleurs, on s'est dit, il ne pourra pas gouverner, il n'a que 24%, tu vois, pour gouverner. Puis en fait, si, parce que tu trouves toujours des blaireaux pour avoir un petit siège bien au chaud. Donc il a trouvé des gouvernants, mais qui sont des seconds couteaux. Et donc, ils ne font que des conneries.
Là, c'est du Bigard dans le texte, tout est à l'avenant, il tutoie Audrey Crespo-Mara. Et vous entendrez, Bigard raconte également ce qu'ils se sont dit avec Emmanuel Macron quand ils se sont appelés, parce qu'ils ne se sont pas appelés qu'une seule fois. J'en reviens plutôt aux Gilets jaunes, il y aura donc une manifestation samedi en 8. Est-ce que c'est dans l'ADN de 7 à 8 de faire un reportage dès le lendemain dimanche, ou est-ce que vous faites des sujets au long cours ? Est-ce que dimanche, dans 9 jours, on va voir la manif de dans 8 jours ?
Ce sont des choix, on est capable de le faire, on le fait parfois, on le fait évidemment, et on en a eu l'une des illustrations les plus fortes que moi j'ai pu vivre à 7 à 8, c'était les attentats de novembre 2015, qui se sont produits le vendredi, et le dimanche on était à l'antenne avec...
Oui, mais là c'est exceptionnel, là c'est exceptionnel.
C'est exceptionnel, mais on est capable effectivement d'être présent à l'antenne, y compris avec des éditions spéciales, quelques heures après l'événement. Néanmoins, sur la manifestation de samedi, le choix n'a pas encore été fait. Il n'est pas certain qu'on ait un reportage dimanche.
Et il y a eu énormément de polémiques pendant plus d'un an entre les Gilets jaunes et la police, notamment avec les tirs de LBD. Il y a des gens qui ont perdu un œil. Le 3 juin dernier, Harry Roselmack, vous avez participé à une manifestation interdite, manif contre les violences policières. Pour quelle raison ?
Parce que... Au-delà d'être un observateur de la société, je suis aussi un citoyen. Et c'est vrai que la question des violences policières, alors que je suis bien placé pour en parler, mon père était policier, il était CRS, est une question qui nécessite qu'on se mobilise. Et moi, je suis allé à cette manifestation quelque part pour défendre la police, parce que moi, j'aime la police. J'aime la police, mais je veux que la police soit comme mon père était policier, avec une vraie éthique, avec un vrai sens des responsabilités qui est la sienne. C'est le garant de l'ordre républicain, la police. Et la police ne peut pas, moins que d'autres, moins que des citoyens lambda, avoir des débordements et faire des choses qui sont des choses répréhensibles.
Comment ça s'est passé d'un mot ? Comment ça s'est passé dans la manif ? Vous nous dites « j'aime la police » avec des gens qui, autour de vous, en grande majorité, disent « fuck la police ».
J'ai hésité ce jour-là à aller voir les policiers d'ailleurs qui étaient stationnés là, parce qu'évidemment, alors, la manifestation était certes interdite, en même temps elle avait été annoncée, on savait qu'il y aurait du monde, et il y avait beaucoup de policiers qui étaient là, et elle n'a pas été dispersée cette manifestation, il y a eu un moment des incidents,
dire, voilà,
et ensuite... Donc,
comment vous
y êtes
perçu avec les gens qui étaient autour de vous ?
Ben écoutez, je peux vous dire qu'il y avait... beaucoup de gens qui étaient comme moi finalement, parce que les gens qui sont là ne sont pas des gens qui sont pour la disparition de la police. Il n'y a pas d'anarchisme, il n'y a pas d'anarchistes dans ces manifestations. Il y a juste des gens qui protestent contre des pratiques qui sont inadmissibles, d'autant plus de la part de la police. Et donc j'étais en phase avec ces gens-là.
Harry Roselmack, engagé comme je vous avais jamais entendu l'aide, vous restez avec nous, Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On est avec Harry Roselmack qui fête ses 15 ans à la tête de 7 à 8. Ça reprend dimanche, l'émission elle-même à 20 ans. 7 à 8, il y a 7 à 8 et 7 à 8 live. On parlait des manifestations envers, plutôt contre, les violences policières. Dans une interview aux Inrecuptibles qui date de juin, vous dites ce que ne comprennent pas les ministres de l'Intérieur et la plupart des syndicats de police et les hiérarques de la gendarmerie, c'est que défendre des mauvais éléments au sein de leur corps, couvrir des erreurs, ce n'est pas défendre les corps en question, c'est les affaiblir. Et pourquoi je cite cette interview de vous ? Parce qu'il y a un télescopage avec l'actualité. Aujourd'hui est sorti un livre qui fait beaucoup parler. Un journaliste s'appelle Valentin Gendreau, s'est infiltré pendant 2 ans dans la police, incognito, notamment au sein d'un commissariat du 19e arrondissement, dans lequel il a couvert des bavures policière. Et il explique que quand bien même ça le choquait, ça allait contre son éthique, il ne pouvait pas faire autrement. Celui qui ne couvre pas est un traître. Il est mis à l'écart du groupe. On est au cœur du sujet de ce que vous dénoncez.
Oui, comme je l'ai écrit et comme je le réaffirme, la force d'une institution, c'est de savoir se remettre en cause, que ce soit un corps d'État, que ce soit une émission installée depuis très longtemps, depuis 20 ans par exemple, si on ne sait pas se remettre en cause, si on ne sait pas voir ce qu'on doit améliorer, si on ne sait pas parfois pointer nous-mêmes du doigt des choses qu'on a mal faites, bah ça finit jamais très bien.
Sur le fond, la déontologie, théoriquement, interdit aux journalistes de cacher leur identité, de se faire passer pour quelqu'un d'autre pour faire une enquête. Quelle est votre position à ce sujet? Vous l'avez déjà fait pour 7 à 8 ou jamais?
Non, on a déjà tourné en caméra cachée, ça nous est arrivé, mais on le fait rarement. Mais on n'a jamais travaillé comme ça en infiltration. Je ne juge pas par définition, mais je pense, pour avoir, moi, travaillé, non pas en infiltration, mais en immersion, que tout ça, c'est une question de confiance qu'on installe avec les gens. Si les institutions ou les gens qu'on va rencontrer, s'ils pensent qu'on va retranscrire honnêtement ce qu'ils vivent, et y compris des choses qui ne sont pas forcément en leur faveur, mais qu'on sera équilibré, qu'on sera honnête dans notre transcription, je peux vous dire qu'ils ouvrent les portes. En immersion, j'étais en caméra ouverte, ma tête, elle est connue partout. Je suis allé voir des salafistes à Marseille, ils m'ont tout montré. Je suis allé en prison, j'ai pu voir la réalité de la prison. Pourquoi ? Parce que les gens faisaient confiance aux journalistes que je suis et ils ouvraient tout. Donc, on n'est pas obligé de s'infiltrer pour faire de bonnes enquêtes. C'est là où je voulais en venir.
C'est un sujet qui me passionne parce que je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et en même temps, je ne suis absolument pas d'accord. Je vais donner un exemple dans le livre de Valentin Gendreau. Il voit une bavure. Après, il couvre la bavure. Mais d'abord, il y a une bavure. Il tape sur un gamin qui vient de l'arrêter. Il se prend des coups, des claques dans la gueule. Pardon, il n'y a pas d'autre mot. S'ils avaient su qu'il était journaliste, il n'y aurait peut-être jamais eu les claques.
C'est possible qu'il n'aurait pas vu les claques. Néanmoins, je pense qu'avec une relation de confiance suffisante, un de ces personnages avec lesquels on peut passer en immersion, en faisant un vrai travail de journaliste, plusieurs jours, plusieurs semaines, aurait pu lui raconter un épisode tel que celui-là. Et il aurait pu le mettre dans son livre. Il ne l'aurait pas vu de ses yeux, mais il aurait eu la parole de quelqu'un de concerné, d'un policier, qui lui aurait dit cette vérité. Moi, je pense que le journaliste, il est là pour recueillir des vérités et qu'il peut le faire en gardant sa qualité de journaliste et en l'assumant.
D'un mot, comment marchent les audiences de 7 à 8 ?
Ah bah les audiences marchent bien. On a fait une très belle saison dernière. L'épisode du Covid nous a, à un moment... Alors, ça a été un truc très paradoxal. C'est-à-dire qu'au moment où on a reconnu le plus la qualité de traitement de 7 à 8 et le fait d'aller vers les gens et de rencontrer les gens, on a eu un petit ras-le-bol, mais de la thématique du coronavirus qui nous
et
a
aussi...
un petit peu...
Et aussi, vous êtes passé en quotidienne, et ça a duré que 3 semaines.
C'est ce dont je parle.
Parce que vous avez fait moins d'audience que Demain nous appartient, le feuilleton
c'est
que vous remplaciez.
C'est exactement ce dont je parle, ouais.
Mais l'hebdomadaire, l'hebdo a toujours marché aussi bien. Grosse notoriété pour cette
avis. Et puis cette quotidienne nous a permis de montrer notre qualité de traitement et le fait qu'on aille vers les gens, qu'on rencontre les gens. Et je crois qu'on va en parler de ça, justement.
Non, parce qu'il nous a amené un petit cadeau, il faut le dire. La notoriété relative, document interne, comme on dit, tombé du camion. C'est les équipes d'Harry Roselma qui nous l'ont fourni. C'est en juillet dernier en Corse, un reportage de votre journaliste Emmanuel Retz, il croise une dame d'un certain âge qui croit bien connaître l'émission, ou plutôt, qui connaît l'émission sans la connaître, tout en la connaissant. On écoute le dialogue.
Et 7 à 8, ça vous dit quelque chose ?
Alors 7 à 8, c'est quel jour exactement ?
Eh ben c'est le dimanche.
Le dimanche, et c'est de ?
Ben 7 à 8, c'est de 5 à 7 en fait, mais ça s'appelle 7 à 8.
Ça s'appelle 7 à 8. Non, moi, je regarde l'émission avec Rose Malek.
Ah, Rose Malek. Bon.
Oui, c'est le dimanche, c'est lui qu'on regarde avec ma soeur.
Ça ne fera pas une ouverture de
parce
sujet.
Parce que les informations corses attrapent la crise de nerfs toutes les fois.
Voilà, on les adore. On les
remet
adore,
les choses à leur place, Harry Rose Malek.
Ça appelle à l'humilité.
Ça appelle à l'humilité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Harry Roselmack. Je rappelle, 7 à 8, ça reprend dimanche sur TF1. Ça sera à 17h. Culture Média continue, évidemment. Le rappel des titres, et puis Eva Rock pour le zapping du lendemain. Chamerois pour son écran de veille. Il a regardé Grand Hôtel, la série de TF1. Alexandre Desplat, oh, il a fait un film qui ressemble beaucoup à ce titre. Le compositeur multi-récompensé sort un album de musique classique en dépit de ses 2 Oscars et 3 Césars. Et puis dans Les Indispensables, on va parler rock et une recette sucrée-salée. C'est de la gastronomie. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.